Oui, c'est vrai, notre Dieu, que nous avons pu te rendre grâce pour le temps que tu nous donnes. Et nous voulons te demander que dans cette tranquillité, nous puissions avoir des cœurs réceptifs et que tu nous accordes de comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et que notre méditation puisse rejoindre les besoins les plus secrets, les plus intimes de chacun de nous ici. Que nous ne passions pas à côté de la délivrance que tu voudrais nous donner d'une façon complète et définitive, parce que tu veux que nous soyons des vainqueurs. Quel que soit le lieu où nous nous trouvions, quel que soit notre état, car, ô notre Dieu, il est question d'un homme nouveau et non pas d'un vieil homme amélioré. Alors fais-nous entrer plus avant dans notre mort avec toi et dans notre résurrection en toi. Et que cette vie de résurrection soit manifestée dans notre chair mortelle pour le bonheur de notre âme, mais avant tout pour la louange de ta grâce et de ta gloire. Amen. Bien oui, c'est mardi matin 29 juillet et nous poursuivons inlassablement notre thème qui donc est Dieu, et je pense que vous commencez à vous apercevoir quelle était la pensée du Seigneur en nous conduisant chaque matin avant le petit déjeuner à questionner ces hommes de Dieu dont la Bible nous parle. Ils nous apprennent par leur témoignage ce que Dieu a été pour eux dans leur temps. Et comme Dieu ne peut pas changer, cela nous incite à croire, à comprendre ce que Dieu peut être si nous avons recours à son aide toute-puissante et si nous nous confions dans ses promesses. Et le livre du Cantique des Cantiques veut nous révéler de plus en plus ce que peut être notre relation avec Dieu. La relation d'une épouse avec son époux. Peut-être que certains ont été étonnés de ce que nous avons dit hier soir au sujet d'Israël et vous vous êtes peut-être demandé comment nous trouvions cela dans le passage que vous aviez lu. Ce n'est pas notre imagination et nous allons essayer de reprendre tout cela ce matin. Nous lisons depuis le verset 10 du chapitre 6. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noisettes pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Et le texte d'aujourd'hui. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, et que nous te voyons. Que verriez-vous dans la Sulamite? Comme la danse à deux bancs. Je voudrais d'abord vous demander, est-ce que le Seigneur vous a parlé par ce texte? Oui. Douglas?
Mais pour en appuyant sur ce qui a été lu de verset 10 aller jusqu'à verset 12, et en recherchant dans la lumière de ce qui est écrit en Éphésiens 2, verset 14, et d'où je crois qu'il parle des Juifs, je vais lire, comme il est notre père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et je m'appuie aussi sur le fait que la Sulamite m'a mentionné, et je crois que la Sulamite c'est sa fiancée, c'est l'Église.
Oui.
Mais j'avance sur la dernière partie où c'est mentionné, comme la danse de deux bandes ou de deux cœurs, comme c'est mentionné dans la Bible.
Mm-hmm.
Je crois que des deux, il n'en a fait qu'un.
Qu'un, oui.
Et c'est Israël et l'Église.
Israël et les païens convertis. Oui, ça peut être ça aussi. C'est une interprétation qui est juste. Merci.
Il y a aussi la pensée, mais Dieu aussi de dire la relation d'Israël et deux tribus, mais quand j'ai vu que c'était la Sulamite, je me suis traîné.
Oui, mais c'est quand même vrai aussi. Ça peut être, parce que nous savons prophétiquement qu'ils seront réunis, n'est-ce pas? Et ils seront tous un. Vous comprenez? Alors, ça peut être ce que tu as dit, c'est une interprétation juste, puisqu'on a dit qu'elle avait 70 sens. Hein? Et puis, c'est aussi cela. Alors, vous voyez comme ça commence d'avoir un sens qui paraissait tout à fait obscur. Mais je comprends rien. Plus fort. Non, c'est le genre. Non, c'est dans le contexte, c'est ces filles de Jérusalem et qui veulent l'avoir. Comment? Non, c'est les nations du monde, parce que tout ce que l'on a vu, ces groupes divers, n'est-ce pas? Ils veulent voir maintenant la Sulamite. Mais pourquoi veulent-ils la voir?
Pour la
regarder, oui. On verra tout cela, parce que maintenant ça devient de plus en plus prophétique, n'est-ce pas? Non, mais on va reprendre ça pour que ce soit clair. Hein. Mais il faut quand même que vous restiez dans le contexte. On peut être touché par une parole, mais il faut toujours que la parole soit dans le contexte et que ça forme une unité. Oui.
Moi, je sais que cette phrase-là revient, il dit ça juste après, justement, que le Seigneur a fait un discours sur elle, sur sa beauté, sur ce qu'elle est en lui.
Oui.
C'est comme si elle, elle lui faisait quasiment peur, ça lui effrayait quasiment de cette époque chose-là. C'est comme si elle se cachait. Puis c'est comme si le Seigneur dit reviens, ben pas le Seigneur, c'est le temps. Il dit reviens, et que nous te voyons. Puis moi, la façon que je vois ça, là, c'est que c'est un peu là, c'est comme si dans ce chapitre-là, le Seigneur essayait de concilier un peu les deux natures de la personne en question. Cette nature qui pécherait, puis l'autre nature, cette nature-là qui est divine. Que le Seigneur essayait justement de lui montrer qu'en dépit de cette nature pécheresse qu'elle est, qu'elle vit, parce que moi disons que je suis un peu à partir du chapitre 3, là, le cheminement de tout ça, là, de ce qui s'est passé. Là. Comme au chapitre 3, c'est. Au chapitre 3, la Tsunamite, elle voit le Seigneur, ok? Elle rêve, ok? Elle rêve, puis là, elle voit le Seigneur qui apparaît, qui vient vers elle, puis qui se révèle à elle, ok? D'une façon que jamais elle n'aurait pu imaginer de voir le Seigneur. Mais c'est un peu comme dans un rêve, un peu comme quand le Seigneur nous révèle des choses dans nos vies, mais qu'on demeure. C'est comme si on n'est pas en contact avec qui qu'on est, nous, en tant que pécheurs. C'est un peu, on se voit dans notre nature divine, mais on ne se voit plus dans notre nature pécheur. Puis, dans l'autre chapitre, c'est comme si là, elle revient à la réalité de ce qu'elle est, elle, en tant que pécheur. Puis là, c'est comme si quand on retombe dans la réalité des choses, après la révélation, là, elle s'éveille. C'est au début du chapitre 5, elle se réveille. C'est là qu'elle voit que dans le fond, elle n'est pas si ouverte comme nous autres, on n'est pas si ouvert que ça, dans le fond, à la lumière du Seigneur. C'est comme si. C'est notre nature, je pourrais dire. C'est comme si là, on est en contact avec la réalité de la vie, parce que dans le fond, le Seigneur, on a une vision. On sait ce qu'est le Seigneur, mais quand on revient dans la réalité des choses de la vie de tous les jours, on voit qu'on retombe dans le péché ou qu'on fait des choses qui ne sont pas du tout en accord avec le Seigneur. Là, notre manière à concilier ces deux natures-là, cette nature divine-là, cette révélation du Seigneur, puis notre réalité de tous les jours, de ce qu'on vit. Puis, ensuite, c'est là que la Tsunamite a confesse le Seigneur, en dépit que, comme les gardes l'ont magané, tout ça, en dépit de cette faiblesse-là qu'elle voit d'elle-même, elle fait une confession de la fixité de qui est le Seigneur, comme il dit mon chéri est clair de rose, là, c'est beau, sa tête, bon. Là, elle confesse le Seigneur tel qu'il est dans sa réalité, en dépit de sa faiblesse, en dépit de qui qu'elle est elle-même. Et ensuite, le Seigneur se révèle une seconde fois à elle, parce que là, c'est plus dans un rêve, c'est réel. Elle demeure consciente de cette nature pécheresse qu'elle a, elle, mais en même temps, elle voit l'amour du Seigneur, elle découvre l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur l'aime, comme ça, en dépit de son cœur ou de ce qu'elle peut être, le Seigneur l'accepte comme ça, puis elle croit en la miséricorde du Seigneur, puis en l'amour du Seigneur. C'est là qu'elle découvre une nouvelle forme une nouvelle relation plus profonde avec le Seigneur.
Je comprendrais bien ce que tu veux dire. Tout au fond de vos besoins personnels. Et nous en parlerons. Mais dans le verset reviens, Tsunamite, reviens, et que nous te voyons. Mais qu'est-ce que vous voulez voir dans cette épouse du Christ? Quand est-ce que c'est qu'on danse, mes amis? Et non seulement quand on est joyeux, mais quand on a fini les combats. Le combat est terminé, la lutte est finie, et maintenant on s'abandonne à la joie, à la danse, c'est la victoire définitive et totale. Et il y a quelque chose de très beau. Revenez toujours à la parole. Quand est-ce qu'on a dansé dans l'Écriture? Oui, mais si vous reprenez toujours depuis l'Exode, depuis après la victoire, sur les Égyptiens. Alors, on danse et on chante. Il y a une victoire sur l'ennemi. On est vainqueur. Et puis, quand est-ce que les filles d'Israël dansaient après la victoire de David sur Goliath? N'est-ce pas? Il y a la victoire sur les Philistins, alors il y a la danse. La danse, dans l'écriture, c'est vraiment le signe de la victoire. On ne danse pas là sur un volcan, on ne danse pas devant le danger, là. Mais c'est que maintenant, c'est la paix et c'est la joie. Et simplement, pour éclairer encore un peu le texte, comme la danse de deux bandes, littéralement, le mot c'est Mahanaïm. Mahanaïm. Oui. Mahanaïm, c'est ça qu'il faudrait mettre, si on voulait mettre le mot hébreu, c'est Mahanaïm. Comme la danse de Mahanaïm. Alors, revenez à l'origine du mot Mahanaïm pour trouver ce que sont d'abord ces deux bandes. Eh bien, nous voyons que Jacob, revenant de son exil, apprend que Ésaü vient à sa rencontre et il a peur, il est inquiet. Mais, au verset 1er du chapitre 32, Jacob alla son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. Quand est-ce qu'il avait vu déjà deux bandes d'anges, Jacob? Dans son songe. Et quelles étaient ces deux bandes? Il y en a une qui montait et puis une autre qui descendait. Et alors là, il dit au Seigneur, si tu me ramènes, si tu es avec moi, etc. Alors il avait vu les anges à son départ. Et à son arrivée, qu'est-ce qu'il voit? Les anges qui sont là. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu tient ses promesses. Et quand il voit ses anges à son retour, il dit, mais c'est l'armée de Dieu. Littéralement, ça veut dire deux bandes, deux cohortes. Mahanaïm, deux cohortes. Mais lui, il a appelé cela le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu. Et il appela le nom de ce lieu Mahanaïm. Deux armées ou deux camps. Mais des armées qui ont maintenant triomphé et par lesquelles nous triomphons. Alors là, dans le verset 13, vous avez la victoire. La Tsunamite, parce que c'est là maintenant qu'on apprend son nom, le nom de la bien-aimée correspond à son bien-aimé. Son bien-aimé s'appelle Salomon, qui veut dire pacifique. Sulamite, c'est le féminin de Salomon, comme on l'a dit, Jules et Julie, hein, la même chose, oui. Mais Sulamite, ça veut dire la pacifiée. Elle est maintenant dans la paix, elle est pacifiée. C'est pour elle le bonheur éternel. Et elle sera vue, alors vous plongez dans l'Apocalypse, où justement vous avez l'Église, et qui, enfin la nouvelle Jérusalem, on l'a vue déjà dans sa gloire. Prenez le chapitre 21 de l'Apocalypse. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse pour son mari. Parce qu'un peu avant, il y a eu les noces de l'agneau, hein, maintenant c'est fait. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car tes paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est beau, hein? Après le c'est accompli de la croix, on entend le c'est fait. Final. Tous les résultats de la croix sont manifestés jusque dans le monde cosmique. C'est un nouveau ciel, c'est une nouvelle terre. Et puis, vous lisez après, au verset 9. Et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla disant, viens ici. Et je te montrerai l'épouse. Viens ici, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité. Cette cité qu'on a déjà vue, et qui revient, qui est vu encore une fois. Et vous en avez la description merveilleuse, Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes, et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et puis vous avez toute la description de la muraille de la cité d'or. Mais je crois que nous voulons reprendre ces choses. Nous vous avons dit que le cantique du cantique peut être lu comme un merveilleux livre nous exposant les expériences spirituelles et progressives de l'âme qui est fiancée à Christ. Mais il ne faut cependant jamais perdre de vue que la bien-aimée s'appelle d'abord Israël. Et que nous pouvons voir toute son histoire dans le poème du Cantique des Cantiques. Donc, premièrement, un des sens de ce poème, c'est la description de la relation de Dieu avec Israël. Et c'est comme ça que les Juifs l'interprètent. Ils voient dans le bien-aimé, donc Dieu, et puis, que représente Salomon, et puis, dans la bien-aimée, leur peuple, Israël, qui était choisi par Dieu. C'est un des sens. Mais ce que nous savons, d'après le Nouveau Testament, c'est que tout ce qui a été écrit au sujet d'Israël ne concerne pas uniquement Israël, mais concerne aussi l'Église. Et vous avez ce que nous avons lu dans le chapitre 15 des Romains, que toute cette histoire, au fond, a été écrite pour notre consolation et pour notre instruction. Ce sont les Écritures qui nous consolent, qui nous donne la patience dont nous avons besoin pour poursuivre notre course. Verset 4 du chapitre 15, toutes ces choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Et dans le chapitre 10 de la première aux Corinthiens, nous avons lu que ces choses l'heure sont arrivées, verset 6, ces choses arrivaient comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas les choses mauvaises comme ceux-là ont convoité. Et plus loin encore, verset 11, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que la fin des temps ont atteint. Et j'ai souvent cité Goethe, qui, le poète allemand, et qui disait « L'histoire d'Israël, c'est notre histoire. » Donc, nous pouvons trouver un enseignement qui nous concerne, les relations de Dieu avec son Église. Mais, l'Église étant formée d'individus, nous avons dit que nous pouvons voir les relations de Dieu avec l'âme humaine. Et c'est dans le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens que nous voyons, quand on accepte le Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive ? On est fiancé au Christ. Je vous ai fiancé au Christ. Et alors notre relation avec le Seigneur peut être considérée justement comme... tant que nous sommes sur la terre, ce temps de fiançailles. Mais on peut aller encore plus loin et voir dans l'Écriture la relation du Créateur avec le cosmos. C'est lui qui est le Créateur du monde, mais nous savons que le monde entier a été assujetti à la servitude et que le monde, la création tout entière, soupire après la délivrance. Donc il doit y avoir plusieurs délivrances. Délivrance pour Israël, délivrance pour l'Église, délivrance pour notre âme, une délivrance totale de tout ce qui a pu nous nuire, tout ce qui a pu nous gêner, et puis délivrance pour le monde entier qui doit jouir de la plénitude de Dieu. Dieu sera finalement tout en tous, dans tous les domaines. Alors, je ne pouvais pas prendre tous les sens pour notre étude. J'ai pris surtout le sens qui pouvait nous être utile dans le temps présent. Mais on arrive avec le chapitre 6 à cet état où la bien-aimée devient consciente que malgré justement tous ces manquements, toutes ces lacunes, c'est pas cela qui doit l'influencer et lui rester, elle peut être victorieuse. C'est ce que vous avez dans le chapitre 6, verset 4. Il y a une victoire. Et c'est cette victoire que j'aimerais souligner et qu'au fond, tu voudrais que nous soulignions. On est d'un côté de chair, on sent toute notre faiblesse. D'un autre côté, on croit à la puissance de Dieu, on a la nouvelle nature, hein. Mais il y a cette vieille nature et on souffre. On comprend à certains moments vraiment toute l'œuvre de Dieu, mais dans la pratique, eh bien, c'est pas cela. Et alors on continue de nouveau à se regarder soi-même. Mais l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Et je crois que je m'en vais maintenant vous parler un peu du vieil homme et du nouvel homme. Il faudrait avoir un tableau noir et ça irait mieux peut-être pour vous montrer. Mais vous avez peut-être du papier. Et il faut comprendre le sens de ces mots. quand nous lisons l'Écriture, qu'est-ce que nous voyons? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'il nous a créés pécheurs? Non. Mais il nous a créés pour le bonheur. Il nous a créés pour que nous soyons des hommes heureux et libres dans sa communion. L'indépendance ne pouvait pas nous être donnée parce que nous sommes des créatures et l'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. Puisqu'on est créé, on est dépendant. Et ce que l'homme a justement voulu, alors qu'il était prédestiné à la gloire éternelle, il a voulu se sortir de la dépendance de Dieu. Il a voulu devenir comme Dieu, mais sans Dieu. Et c'est cela qui est dans le cœur de tous les hommes. On veut la divinité, mais sans Dieu. On veut être nous-mêmes Dieu. On veut être à la place de Dieu. Oh, c'est impossible. Et en voulant, justement, c'est ça le péché, en voulant cette indépendance, en voulant faire nous-mêmes notre vie, eh bien, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on doit constater? On retombe sur nous-mêmes et on n'est plus que chair. Tant que l'homme était en relation avec Dieu, il était heureux. Et comment avons-nous été créés? L'homme est créé à l'image de Dieu, qui est Trinité. Alors, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. L'homme tout entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Voilà comment Dieu nous avait créés. Vous avez cela dans le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, au verset 23. L'esprit, c'est la partie supérieure de notre être. L'âme, c'est la partie intermédiaire. Et le corps, c'est la partie inférieure. Mais tout cela a été créé par Dieu. Et il nous faut comprendre maintenant ce qu'est l'esprit, et ce qu'est l'âme, et ce qu'est le corps. L'esprit de l'homme, nous dit les proverbes, est une lampe du Seigneur. L'esprit est la partie supérieure de l'homme par laquelle nous sommes en relation avec Dieu. Dieu est esprit et c'est avec notre esprit que nous communiquons avec le monde invisible. C'est ainsi que Dieu nous avait créés. Notre esprit était en communion avec l'esprit de Dieu. Maintenant, cet esprit était dans l'âme et le corps. Le corps, c'était la partie inférieure de notre être, la partie visible par laquelle nous communiquons avec le monde visible. L'esprit avec le monde invisible, le corps avec le monde visible. Et si nous avons le sentiment de Dieu dans notre esprit, le sentiment du monde, nous l'avons dans notre corps. Et qu'est-ce qui habite notre corps? Ce sont nos sens. Nos sens se trouvent dans notre corps. Et alors, l'âme était la partie intermédiaire entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est la vie psychique. L'âme, c'est en quelque sorte le moi. Le moi habite dans l'âme. L'âme, c'est notre personnalité. L'âme, ce sont nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, tout cela fait partie du domaine de l'âme. Et le rôle de l'âme, eh bien, c'était d'être, si vous voulez comparer l'homme à une maison humaine, l'esprit devait être le maître de la maison, l'âme l'économe et le corps le serviteur. C'était comme cela que Dieu le voulait. L'esprit maître de la maison, tout illuminé, et qui influençait toutes les puissances de l'âme qui soumettaient les membres du corps. c'était la direction de Dieu, c'était ainsi que Dieu avait créé l'homme. Alors, quand il était en communion avec Dieu, l'homme, avant la chute, donc, était tout illuminé, il recevait la lumière de Dieu, la vie de Dieu, l'amour de Dieu. Il était dans la joie et dans le bonheur. C'est Éden avant la chute. Mais le jour où il a cru qu'il pouvait se séparer de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Le contact a été coupé. L'esprit étant la lampe du Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Il nous est arrivé ici? Les ténèbres. La lampe s'est éteinte. Elle est toujours là. Mais l'esprit spirituellement est mort. Et Satan, qui a attaqué l'homme par en bas, alors que Dieu dirige l'homme par en haut, il a attaqué par les portes des sens, cette cité de l'âme, il l'a attaqué par le corps. Et il a assujetti notre âme à la puissance de nos sens. Vous comprenez? Et puis là, l'esprit, il est comme paralysé. Il est mort, il peut peut-être protester plus ou moins par la conscience, qui est encore là, mais enfin, le maître de la maison humaine, c'est le corps. Et comme le corps est le siège des sens, ce sont les sens qui dominent la nature humaine. Et si vous voulez essayer de vous en sortir par vous-même, croyez-le bien, vous n'arriverez pas. Et vous voyez les gens les plus intelligents qui sont les esclaves de leur passion. Ce qui montre bien que c'est Satan qui les domine, c'est Satan qui règne, Satan qui est leur père. Vous avez pour père le diable. Et le diable nous domine par nos sens. Et il nous rend esclaves du péché. Et alors, pour être libéré, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien, Dieu, dans son amour, a accompli une œuvre pour que nous soyons rachetés, libérés. Quand on accepte le Seigneur qu'il nous a donné, eh bien, par son esprit, la relation avec Dieu est rétablie. L'esprit, de nouveau, est illuminé et donne les directions à l'âme qui va chercher à assujettir le corps. Mais comme le corps a été dominé par les sens et a pris l'habitude de commander, et il a de la peine à se soumettre à la nouvelle direction. Alors il y a conflit en l'homme entre la nouvelle direction qui est celle de l'esprit unie à l'esprit de Dieu et l'ancienne, celle du corps qui voulait influencer l'âme. Et l'âme est hésitante entre les deux directions, notre moi, notre volonté. Elle voudrait bien peut-être se soumettre à l'esprit de Dieu, mais c'est à savoir, est-ce que vous le voulez? Jésus a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine vient de moi ou si elle est vraiment de Dieu. Alors, il est question maintenant de savoir si on va se laisser faire par le Seigneur. Je me soumets à sa volonté. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui illumine mon esprit, qui ramène les puissances de mon âme sous sa direction et qui assujettit mes sens. Mes sens, maintenant, qui me dominaient, eh bien, je n'en suis plus esclave, je puis les dominé. Par quelle force? Par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est toute une œuvre que le Seigneur va faire. Alors, maintenant, prenons certains mots dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, vous avez trois fois le mot vieil homme. Le vieil homme. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? Ça ne concerne pas les sœurs? Je n'ai pas dit la vieille femme, hein, mais le vieil homme, mais les femmes l'ont aussi le vieil homme. Alors, vous avez le vieil homme. En opposition au vieil homme, qu'est-ce que vous trouvez dans l'Écriture, dans la doctrine de Paul? Le nouvel homme, le nouvel homme. Alors, maintenant, le vieil homme, d'où vient-il? Vous avez, vous mettez le vieil homme puis le nouvel homme. Puis vous avez aussi l'expression la chair. Et en opposition avec la chair, qu'est-ce que vous avez? L'esprit, hein? Alors, vous avez la chair d'un côté, vous avez l'esprit. Le vieil homme, le nouvel homme, la chair, l'esprit. Et puis vous avez le péché. Et de l'autre côté, la parole. Alors, nous apprenons que quand l'homme s'est séparé de Dieu, Genèse chapitre 6, il n'est devenu que chair. Il n'est plus que chair, dit Dieu. L'homme n'était plus que chair. C'est ça où font la chute. Il est retombé sur lui-même. Il était créé de chair, c'est vrai, mais c'est la chair qui le domine. Et au fond, le péché, entrant dans la chair, ça a produit quoi? Oui, mais, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'enfance, j'ose dire ainsi, de la chair et du péché, c'est le vieil homme. Comprenez-vous? Ce que produit le péché lié à la chair, le péché qui entre dans la chair, produit un enfant qui s'appelle le vieil homme. Et l'apôtre Pierre nous parle de ce vieil homme de cette façon-ci. Il parle de notre ancienne manière de vivre, qui nous a été enseignée par nos pères. Mais nous avons été rachetés de cette ancienne manière de vivre. Et l'apôtre Paul nous dit que le vieil homme, il a été crucifié, de sorte que votre vieil homme, est-ce qu'il est vivant en vous?
Non,
il est mort. Il n'a plus aucun droit. Il est mort et enterré. Mais qu'est-ce qui est encore en vous? La chair. Hein? La chair, et on l'a jusqu'au bout. Mais quant au vieil homme, quant à cette manifestation de la chair et du péché, c'est fini, il est mort. Romains chapitre 6. Et vous avez l'illustration de cette mort du vieil homme dans le baptême. Colossiens chapitre 2, comme aussi Éphésiens chapitre 4. Le vieil homme est toujours considéré comme étant mort. Et alors, quand vous avez reçu Christ, le nouvel homme, qui est notre nouvelle manière de vivre, est né. Et nous sommes nés de quoi? De l'esprit et de la parole, née d'eau et d'esprit. Et l'eau symbolisant toujours dans l'écriture la parole de Dieu. Vous avez été engendrés, dit l'apôtre Pierre, non par une parole corruptible, mais par la vivante et permanente parole de Dieu. Quand vous entendez la parole qui est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit, si vous croyez cette parole, et si vous vous laissez convaincre par le Saint-Esprit, vous naissez de nouveau. Nous naissons de nouveau. Et cette nouvelle naissance produit le nouvel homme. Alors, qui sont donc les parents du nouvel homme? L'esprit et la parole. Et cette parole va nourrir le nouvel homme. De quoi nourrissez-vous le nouvel homme? La parole est un lait pour le nouveau-né. Et puis, ensuite, ça devient de la viande. Il y a progression dans l'alimentation que nous recevons pour fortifier le nouvel homme. Au fond, maintenant, je suis sous la dépendance de ma mère, qui est vraiment la parole de Dieu. Et celui qui me dirige, celui qui me conduit, celui qui a autorité sur moi, c'est mon père. Et comme elle est là, je l'appelle quelquefois la vieille tante, n'est-ce pas? Elle prétend influencer le nouvel homme. Elle prétend lui dire ce qu'il a à faire, parce qu'elle n'a plus le vieil homme. Vous devez le considérer comme mort et enterré. Vous comprenez? Mais elle est quand même là, la vieille tante, qui prétend qu'elle en sait plus que les autres. Moi, j'ai eu une vieille tante aussi. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle prétendait toujours qu'elle savait mieux que ma mère. Et ma pauvre mère, quelquefois, ça l'irritait un peu. Alors, la vieille tante, mettez-la de côté. La chair est là, mais vous n'avez plus à écouter la chair. Vous n'avez plus à vivre selon... Elle est là, mais vous n'êtes plus débiteur à la chair, dit Paul, pour vivre selon la chair. Vous ne pouvez pas empêcher que la chair veut parler... Mais elle n'a plus aucun droit sur vous. Elle ne dominera plus sur vous. Pour quelle raison? Ben parce que maintenant vous êtes pris par la puissance de l'esprit et de la parole. Mais il faut alors vous nourrir de la parole et obéir aux directions de l'esprit. Et si vous nourrissez votre chair des aliments qui sont servis à la table du monde, vous n'aurez jamais la victoire. Comprenez-vous? Vous aurez des doctrines chrétiennes, mais vous n'aurez pas la victoire dans la vie pratique. Mais si vous renoncez, et c'est ça l'évangile, c'est un renoncement à certaines choses. Et si vous ne prenez pas position, vous n'aurez jamais la victoire. Si vous nourrissez vos appétits charnels, croyez-le, vous tomberez. Vous pourrez réciter des prières, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, et vous faites exprès de courir vers la tentation, en disant, oui, mais je m'arrêterai assez vite. On ne s'arrête pas, on est coulé. Il faut rompre, il faut fuir, si vous voulez avoir la victoire. Et il faut vivre dans l'énergie de la foi et du Saint-Esprit. Et quand vous avez vraiment pris position pour le Seigneur, vous aurez encore des combats, vous aurez des luttes, mais vous voulez courir droit au but. Et puis si même vous tombez, est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Vous voyez que dans le Cantique des Cantiques, on a vu que malgré ses chutes, la bien-aimée restait la bien-aimée du Seigneur. Et il lui parle toujours de la même manière, lui ne l'a jamais abandonnée. Alors, nous prenons confiance, nous revenons sans cesse au Seigneur, nous savons que le Seigneur n'est pas mort pour rien, mais qu'il est mort pour de grands pécheurs. Et quand vous voyez justement ce conflit en vous, vous vous dites, comme c'est vrai que j'avais besoin d'un sauveur. Comprenez-vous? L'apôtre Paul, dans le chapitre 7 des Romains, nous montre bien que la chair ne s'améliore pas. Quand il arrive à dire, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'y a pas de bien. Mais est-ce que vous le reconnaissez, ça? Mais chez les chrétiens, c'est exactement le contraire. On trouve qu'il y a beaucoup de bien dans la chair. Vous comprenez? Et alors Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Si vous, vous trouvez qu'il y a beaucoup de bien dans la chair, eh bien, marchez selon la chair. Allez-y, et puis vous verrez ce que la chair vous donne. La moisson de la chair, c'est quoi? La corruption. Comprenez-vous? Mais Dieu ne vous force pas, il vous montre un chemin. Mais il vous dit, si tu en veux de la chair, bien vas-y. Mais ne te plains pas, la chair ne peut produire que la chair. Ce qui est né de la chair, dit Jésus, est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, de quel côté êtes-vous? Si vous vous affectionnez aux choses de la chair, eh bien, vous mourrez. Mais si vous vous affectionnez aux choses de l'esprit, vous vivrez. Alors, où sont les affections de vos cœurs? Est-ce que c'est la personne de Jésus qui vous nourrit? Est-ce que le Seigneur est devenu votre plus précieux trésor? Est-ce que Jésus est le number one? Ou bien est-ce que, oh, il est là, hein, mais pas trop, hein, parce que tu nous gênes. Pourquoi? Parce qu'on veut satisfaire les appétits du corps. Comprenez-vous? Comment? Mais bien sûr, quel incrédule, on n'y croit pas. Tu vois, mais c'est cela. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est cette foi, vous voyez, le salut, j'ai essayé de vous le montrer, c'est pas, voilà, ben moi je l'ai eu il y a X temps. C'est quelque chose de quotidien. Comprenez-vous? Mais quand la bien-aimée a compris ça, elle est devenue redoutable. Hein? Elle est devenue une vraie combattante. Et elle a de la puissance sur le Seigneur. Quand on s'est décidé pour le Seigneur est tellement bon qu'il est tout prêt à vous donner ce que vous voulez. Oui, mais quand vous l'aimez, vous voulez sa volonté. Ce sont vos délices de faire sa volonté. C'est plus, vous n'êtes plus sous la loi qui ordonne. Et il suffit de se mettre sous la loi pour être malheureux. Et pour être tenté. Mais vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Le péché ne dominera pas sur vous, dit Paul, sans ça brûler votre Bible. Prenez position, si c'est pas vrai, brûlez votre Bible. Ou bien il y a une délivrance, ou bien il n'y en a pas. Comprenez-vous? Alors, mais voilà, nous ne sommes pas des absolus. Nous voulons des deux. Et Jésus l'a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et voyez-vous, cette mort avec Christ, cette identification à la mort du Christ, ça doit devenir une réalité. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas par moi que je puis faire ça. Mais si je m'abandonne à l'Esprit de Dieu, l'Esprit vient à mon aide. Et c'est lui qui tient ma chair dans la mort. Mais chaque fois que ma chair veut montrer son nez, c'est la culbute. Comprenez-vous? Mais je n'ai pas à vivre selon la chair. C'est le petit chien qui aboie tout le temps, là. Hein, et qui, bon, ben, je le chasse. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Et alors je m'accroche au Seigneur. Et tant que je regarde Jésus, tant que je suis dans la présence de Jésus, je ne pêche pas. Mais dès que je pêche, c'est que je ne suis plus dans sa présence. Et alors, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne vais pas me désespérer, mais je m'en vais m'humilier. Et je vais dire au Seigneur, comme c'était vrai que j'avais besoin d'un sauveur. Mais tu es le Dieu de la persévérance, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me jettes pas là en disant on ne peut rien faire avec toi. Tu veux me reprendre en main. Alors je me laisse reprendre. Tu as péché. Eh bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Comprenez-vous, quand Jésus est mort pour vous, quels sont les péchés qu'il portait? Vous n'étiez pas né. Vous n'aviez pas encore péché, puisque vous n'étiez pas né. Donc, quand Jésus est mort pour vous, c'est les péchés de toute votre existence qu'il a portés. Mais alors, faites attention, ne dites pas, ah ben, bonne affaire, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il a porté tous mes péchés jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Alors, péchons avec la grâce abonde. Voilà ce que dit Saint Paul. Vous n'allez pas faire cela. Mais oui, mais c'est un raisonnement qui vous vient. Si c'est vrai que Jésus a porté les péchés de toute notre existence, parce qu'il n'a pas porté les péchés seulement depuis ma naissance à ma conversion, mais jusqu'à ma mort. Hein. Et c'est les péchés de ma vie qu'il a portés. Mais maintenant que je sais ce que mes péchés ont coûté au Seigneur. Qu'est-ce que ça lui a coûté à lui ? La croix. Alors c'est pour cela que vous devez toujours revenir à la croix. Ayez une vision nouvelle du calvaire. Ce calvaire est encore éclairé pour vous. Revoyez le calvaire. Souvenez-vous des souffrances, de l'agonie du Seigneur, ce qu'il a dû endurer pour vos péchés, pour que je puisse dire à un mourant qui a peut-être connu toutes sortes de péchés, toutes sortes de turpitudes, mais qui est en face de Dieu et dans une crainte effroyable, je peux lui dire, mais si tu crois au Seigneur, il a pris aussi ces péchés-là. Il nous dit, mais c'est pas possible, je suis trop mauvais, je suis trop mauvais. Et non, regarde le brigand sur la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Se déclouer? Puis faire des bonnes œuvres? Est-ce que c'est un baptême qui l'aurait sauvé? Vous n'avez pas vu Pierre courir avec un goupillon pour venir l'asperger? Hein? C'est pas le baptême qui sauve, c'est pas l'acte du baptême qui sauve. Il a fait été baptisé, le brigand. Mais c'est vrai ou c'est faux? Comment? Il a cru à la miséricorde et il s'est reconnu pécheur. Il a dit, nous sommes ici, justement. Nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait qu'il ne s'est dû faire. Il a reconnu la justice du Christ. Hein. Et alors, il s'est confié en lui. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et le Seigneur lui dit immédiatement, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est merveilleux, hein? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Accepter. Aujourd'hui, quelle promptitude! Avec moi, quelle présence! Dans le paradis, quel lieu! En quelques mots, le Seigneur lui dit tout. C'est vraiment merveilleux. Et quand vous pouvez apporter même à une âme qui est angoissée par la mort, et que vous pouvez lui dire, mais le Seigneur a payé. Et que vous voyez tout à coup, ça arrive comme je dis quelquefois à la centrale, hein, et qu'ils comprennent. Alors c'est merveilleux, parce qu'on les voit partir dans la paix. Bien sûr que leur vie aurait pu être tout autre. Hein. Mais ils sont sauvés, oui, mais comme au travers du feu. Alors, nous autres, si vous avez compris cela avant, votre vie qui a été racheté à un si grand prix, à qui va-t-elle appartenir au Seigneur, pour que vous puissiez accomplir maintenant les bonnes œuvres, non pas pour vous racheter, mais parce que vous avez été racheté, parce que vous lui appartenez, alors vous avez un nouveau désir, vous avez de nouveaux goûts pour le Seigneur. Et vous vous nourrissez des mets que le Seigneur vous donne à sa table. Il y a une autre table, la table des démons, qui est dans le monde, où le monde va nourrir sa vieille nature. Et ces mets sont des mets de corruption. Et alors, que voulez-vous? La santé du monde, elle va mal. Parce que le monde se nourrit. Mais si moi, chrétien, je veux aller me nourrir à cette table-là, je ne dois pas penser que j'aurai la victoire. Fuir, rompre pour vaincre. Joseph est un exemple, et j'aurais aimé vous parler de Joseph. Vous croyez que Joseph ne pourrait pas vous comprendre? S'il avait raisonné, lui. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Ce n'est pas de l'histoire sainte. Je n'ai pas pu vous raconter tous les hommes de ce que Dieu a été pour tous ces hommes. Mais voilà un jeune homme qui a 17 ans. Vous vous souvenez de vos 17 ans? Est-ce qu'il y en a qui sont proches des 17 ans? Ben, mais oui, 17 ans. Il obéit à son père, mais il est jalousé par ses frères. Il a eu des songes. Et on pourrait justement trouver dans des songes une correspondance avec la lune, les étoiles, le soleil, hein, dont il est question ici. Alors, il a eu des songes, mais bon, il obéit à son père, il va là. Ses frères veulent le tuer. Il échappe d'une façon miraculeuse, en quelque sorte, mais il est vendu en Égypte. Et il pourrait se dire en Égypte, ben quand même, Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Et puis, malgré tout, dans la maison de Potiphar, qu'il a acheté comme esclave, il a un tel témoignage que Potiphar l'établit sur toute sa maison. Et c'est merveilleux, hein. Et Potiphar n'a plus besoin de s'inquiéter de sa maison. Il a une confiance totale en Joseph. Il lui a dit, tu es le maître de tout, et il n'y a qu'une chose que tu ne dois pas faire, c'est toucher à ma femme. C'est la seule chose. Mais voilà, il est beau le visage. Il a une belle stature, notre Joseph. Et Potiphar, il est souvent loin, en voyage. Il est aux affaires de son pharaon. Et voilà, la femme a jeté les yeux sur Joseph. Puis elle commence à lui faire des propositions de basse cour. C'est ça. Et Joseph lui dit, mais c'est pas possible. Ton mari a toute confiance en moi. Je suis le chef ici, c'est vrai. Mais il y a une chose que je ne dois pas toucher, c'est toi. Alors elle essaye de le séduire. Elle l'achale tous les jours, tous les jours, tous les jours. Couche avec moi, couche avec moi, couche, couche. Voilà. Hein? Vous savez ça. Et vous croyez qu'il ne peut pas vous comprendre? Mais comment est-ce que ça se fait qu'il résiste? Il a 28 ans. Ah, 28 ans. À quoi est-ce que j'en suis? Parce qu'il fera encore 2 ans de prison. Hein. Et il sort de prison à quel âge? 30 ans. Mais alors Joseph, tu n'avais pas de besoin, comment vous appelez ça? Sexuel? Ta sexualité. Mais il s'attendait à Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous êtes entré Dieu dans votre sexualité? Et pourquoi est-ce que vous seriez esclave de cela? Et pourquoi est-ce que vous croyez que c'est en satisfaisant tous ces besoins-là que vous aurez votre épanouissement? Quel épanouissement? Et puis qu'est-ce que vous faites de la femme? Un objet? Un objet de jouissance? Ben oui, mais on s'arrange autrement alors. La masturbation, tout ce que vous voudrez. Moi, je veux rien vous dire là-dessus. Mais je vous dis, ayez affaire avec le Seigneur, voyez ce que le Seigneur vous demande, voyez ce qui peut plaire au Seigneur. Vous savez, j'ai été dans le combat, dans la lutte, aussi bien pour soi-même, pour assumer notre propre sexualité, mais aussi pour les autres. Quand vous êtes, pendant 6 ans, au milieu de 3000 malades tuberculeux qui sont jeunes encore, et qui sont là au lit parce qu'on les... On les soignait comment autrefois? C'était dans les années 39 à 45. Et d'être là au lit à ne rien faire, ben, c'était pas très gai. Et puis, ça n'aidait pas du côté sexuel. Surtout qu'il y avait encore des femmes qui étaient les marraines de ces hommes. On envoyait des femmes comme marraines. Et qui faisaient ces entrecroisées de jambes au bord de leur lit. Pour les mettre dans des états épouvantables. Moi, j'ai vécu ça. Et quand vous arrivez vers un jeune qui était auprès du Seigneur, mais on a eu son fils ici, dans un camp. Et bien que j'arrive vers cet homme qui était athée et qui s'est converti au Seigneur, et qui me dit, Gaston, mais je t'en supplie, prie pour moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Je veux rester fidèle au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour moi? J'aurais besoin d'une femme. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Je me jette à genoux à côté de lui et je prends ça sur moi comme si c'était moi qui avais ce besoin-là. Puis nous prions ensemble. Tout à coup, il me dit, oh Gaston, je suis désolé. Mais nous luttons ensemble. Je ne vais pas lui dire, ben, je m'en vais t'en chercher une. Hein? Parce que ça lui amènera à quoi? Au fond. Mais nous sommes dans le combat, mais nous devons nous aider les uns les autres. Et ne pas nous juger, j'ai pas dit tu es un salaud. Parce que c'est moi qui serai le salaud. Comprenez-vous si j'ai pas de compréhension pour cela? Nous sommes des humains, nous avons des luttes, nous avons des tentations, mais nous pouvons, ensemble, demander à Dieu sa grâce. Si tu veux que je te suive, si tu veux que je t'honore, Seigneur, viens à mon secours, moi je peux pas. Mais nous avouons notre impuissance. Mais nous sommes trop orgueilleux pour ça. On dit, non, moi je peux tenir. Joseph, c'est pas ce qu'il a fait. Vous vous souvenez? Parce qu'il y a toujours l'occasion favorable. Et un jour, elle s'est trouvée là. Qu'est-ce que c'était l'occasion favorable? Il était dans la maison et il n'y avait personne. Aucun serviteur. Quelle occasion de trouver? Alors la femme le saisit. Couche avec moi. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, ça me bouleverse, là. Au pays des hommes sans Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre qui? Contre Dieu. Il n'a pas dit contre Potiphar. Hein. Il a vu que ça, c'était mal, un mal contre Dieu, devant Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas parce qu'il avait une Bible, comprenez-vous? Ou qu'il avait récité la loi de Moïse. C'était avant la loi de Moïse. Avant, tu ne commettras point adultère. Et c'est cela qui nous navre aujourd'hui. Tout est possible, tout est permis. Oui, on a pu tomber dans toute espèce de faute, mais quand l'esprit est réveillé, on voit qu'il y a autre chose. Mais, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Parce qu'il n'est pas de bois, il n'est pas de marbre, et il sait très bien que s'il était resté dans la proximité de cette femme, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est naturel d'arriver. Hein? Et alors, vous voyez l'amour d'une femme. Enfin, pas toujours. Il s'est sauvé, mais il a perdu son manteau, hein, son vêtement. La femme, folle de rage, elle garde le vêtement là, elle le place bien là en vue. Et puis quand le mari vient, elle lui dit, qu'est-ce que c'est que ce type-là que tu nous as amené? Et il a voulu me violer. Et la preuve, tu vois, comme il était autour de moi pour me posséder, eh bien moi j'ai crié, et il a eu peur, et il a laissé son vêtement, puis il est parti. Alors évidemment, Potiphar, qu'est-ce qu'il a cru? Sa femme, la perverse. Et le pauvre Joseph, parce qu'il a voulu rester fidèle à son Dieu, qu'est-ce qu'il a? La prison. Bon, c'est à en perdre la foi. Vous croyez qu'il a perdu la foi? Non. En prison, le Seigneur a été avec lui. Et il a pu être utile dans la prison à ses prisonniers. Et puis, 2 ans après, parce qu'on l'a oublié, 2 ans après, il en est sorti et il est devenu le chef de l'Égypte. Mais on ne peut pas être chef de l'Égypte sans avoir passé par des épreuves. Et par cette discipline, il a été foulé en plume. Il en a reçu des coups. Mais alors, il est un homme qui est maître de ses sens. Il aura une femme, la sienne. Il aura des relations sexuelles, mais selon la volonté de Dieu. Et il aura la joie avec Asnath que le pharaon lui a donné d'avoir 2 enfants. Éphraïm et Manassé qui vont devenir les 2 tribus d'Israël. Voyez-vous, tout cela doit imprégner votre pensée. Et dès ma jeunesse, c'est on a eu toutes les tentations possibles. Moi, j'étais dans les hôpitaux, j'ai eu toutes les tentations possibles aussi. Et je ne vous dis pas que c'était facile. Et que des moments où on pense qu'on va couler, il y a juste la grâce prévenante. Une intervention de Dieu. Et puis, ça ne peut pas se faire. Mais après, quand on voit ce qu'on aurait pu faire, parce qu'on y a pensé, alors on n'est pas meilleur que les autres. Mais si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'il nous a gardé, préservé. Alors, on est un torrent d'action, de grâce et de louange, mais en même temps, on s'est vu plus noir que jamais. Et alors, on détourne et on dit, comme c'est vrai que j'ai besoin de toi sans ça, je ne ferai que de chute en chute. Mais même si vous l'avez eu, ces chutes, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Alors revenez toujours à Jésus-Christ qui vous aime. Il a manifesté son amour envers nous quand nous étions encore des
pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors maintenant que nous l'avons accepté, combien plus nous donnera-t-il toutes choses avec lui? Mais comme tu l'as dit, c'est notre incrédulité qui nous coule la plupart du temps. Alors nourrissons-nous de la parole. Vivons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière. Et demandons-lui qu'il affectionne nos cœurs aux réalités célestes. Et que réellement notre foi ne soit pas une foi en des doctrines, mais une foi en une personne. Une personne qui nous devienne vivante, qui nous devienne proche. Et quand vous contemplez Jésus, il est dit que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Mais dans la foi, vous devez dire, je suis mort. Et vous souvenir de Joseph, fuir, rompre pour vaincre. J'ai eu un grand-père qui était, au fond, sous la domination de l'alcool pendant des années et des années, et du tabac, il fumait comme un pompier, à s'endormir avec sa pipe dans son lit, à brûler ma grand-mère, mettre le feu au lit, il s'est endormi, puis les braises mettaient le feu au drap. J'ai vu les draps avec des ronds bruns là, brûlés. Mais j'ai entendu ma grand-mère prier, j'étais sur ses genoux, j'avais 9 ans, quand elle est morte, et qu'elle me disait, grand-papa sera sauvé, grand-papa sera sauvé. Elle est morte à peu près aveugle. Il n'avait pas changé. Le jour de l'enterrement, il s'est converti, à 75 ans. Il a vécu encore 15 ans, jusqu'à 90 ans. Mais il y avait tous ses amis, hein, d'auberge, de bistrot. C'est pas drôle pour un vieux qui a ses coutumes. Il a été libéré de tout. Sans entrer dans les AA, c'est des alcooliques anonymes. Ici, hein, ou l'abstinence, il n'a rien signé. Il pouvait encore boire son verre de vin à table avec ses enfants, mais il ne s'est plus jamais livré, il n'a plus mis les pieds dans ces lieux. Mais je lui disais un jour, grand-papa, mais qu'est-ce que ça a été pour toi? Comment est-ce que tu as pu vaincre tout ça? Il m'a dit, bien, tu sais, quand je passais devant l'auberge, j'avais soif. Automatiquement, j'avais soif. Et je sentais très bien que si j'étais resté par là, j'y serais entré. Alors je fuyais, j'allais plus loin. Puis la soif disparaissait. Ne pas s'arrêter où l'on ne doit pas s'arrêter. Il faut cette discipline. Il y a des choses auxquelles je renonce, pas parce que ces choses seraient absolument mauvaises, mais parce qu'elles ne m'aident pas. Comprenez-vous? Les choses qui ne m'aident pas, j'y renonce. D'autres peuvent les faire. Et ça, c'est votre affaire. Mais moi, je sais que je coulerai là-dessus. Alors, je dis non. Et le Seigneur nous garde. Et il est dit que c'est vrai que vous devez être revêtu de toute l'armure complète de Dieu, pour pouvoir résister aux tentations et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors il est dit qu'il faut avoir la vérité pour ceinture. Hein. Et c'est ça. Les reins saints de la vérité. Ayez la vérité dans votre cœur. Hein. Vous êtes amoureux de la vérité et vous bannissez le mensonge. Parce qu'une des ruses du diable, c'est les demi-vérités. C'est ça, hein? Il y a des demi-vérités. Eh bien, nous renonçons au mensonge entièrement. Alors, j'ai la vérité pour ceinture. Je ne veux rien me proposer qui ne soit vraiment dans la lumière de Dieu. Et la cuirasse de la justice. Le Seigneur, quand vous avez la vérité pour ceinture, ça vous donne une bonne conscience. Hein? Et vous êtes couvert de la justice de Dieu. Et vous pouvez avancer vers l'ennemi. Et puis, les pieds chaussés de la préparation que donne l'évangile de paix. Vous êtes nourri de l'évangile et vous avez un témoignage à apporter. Témoignage de paix. Et puis, quelle est l'arme ensuite encore défensif, il y en a cinq. Le bouclier de la foi, hein, ce que tu soulignais, l'incrédulité, et pour qui peut éteindre les dards enflammés du malin, je crois. Le diable veut me lancer une flèche de doute. Bien, je l'arrête par la foi. Il est écrit. Jésus a vaincu la tentation par la parole. Il nous donne l'exemple comment lui a été vainqueur des convoitises de la chair, des convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Toujours par il est écrit. Il est écrit. Il s'est collé à la parole. Et il nous montre comment nous pouvons vraiment vaincre. Et puis après, il y a encore le casque du salut. Il faut que nos pensées soient maintenues dans la communion du Seigneur. Je suis sauvé, j'ai le casque, mais je veux me conduire vraiment comme un racheté. Mes pensées ne seront pas ce que pense tout le monde. C'est la pensée du Christ. Seigneur, domine-moi dans ma pensée. Et alors, j'aurai les armes offensives, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et puis la prière, la septième arme. Cinq armes défensives, deux armes offensives. Voilà ce que nous avons. Alors nous devenons redoutables. Elle est redoutable, comme des troupes sous leur bannière. Notre bannière, c'est l'amour de Jésus. Nous croyons à son amour, et nous croyons que ce qu'il donne, que ce qu'il ordonne, il le donne. Il donne ce qu'il ordonne. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il nous donne une nouvelle nature qui aime les choses de Dieu. Mais voyez-vous, c'est là que je vous demande, et notre sœur d'Haïfa d'Israël vous l'a demandé, examinez votre situation devant Dieu. Je ne vous ai pas demandé de me raconter votre conversion. Est-ce que simplement, dans une réunion peut-être, vous avez été ému, et puis vous vous êtes avancé, puis depuis ce jour-là, vous dites « je suis converti ». Peut-être que c'est vrai. Mais je vous demande, est-ce que vous avez été régénéré? Ou bien, depuis ce moment-là, bien oui, vous êtes senti lavé? Mais c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, « attention au lavage de truie ». Si je suis une truie, et puis je peux très bien être une truie, on verra un peu se couler. Ben, avec ma nature de porc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais avec mon groin partout, oui. N'est-ce pas? Je fouine partout. Je conduis comme un porc. Je suis une truie. Bon. Mais alors, on veut nous laver. Alors on fait un très lavage formidable, il y a des maisons pour ça. Là on est tout propre, on chante des cantiques, au lieu de grogner. Hein, on est pris. Et tant qu'on est dans la salle, tant qu'on est avec les chrétiens, ça va bien. Les grognements se sont atténués, c'est une espèce de petite louange. Peut-être qu'on arrive à faire un alléluia. Mais quand vous sortez, puis que vous vous retrouvez dans le monde, comme vous n'avez pas changé de nature, et qu'il y a le bourbier, qu'est-ce qu'elle fait la truie? Elle va se vautrer dans le bourbier, c'est tout à l'heure. Alors il est dit, la truie est retournée à son bourbier, et le chien, à ce qu'il avait, vomi. Mais il n'est jamais dit que les rachetés du Seigneur sont des chiens ou des truies. Il est dit des brebis, ils ont changé de nature. Mes brebis connaissent ma voix. Alors la brebis ne se nourrit pas de ce qu'une truie se nourrit. Et la brebis, elle est conduite par le Seigneur qui lui donne sa nourriture dans des pâturages conviennent, comprenez-vous? Alors c'est pourquoi il faut faire très attention à cela. Et nous sonder devant le Seigneur et prendre au sérieux ce qu'il dit. Ne vous y trompez pas. Parce qu'on a pu être tout ce que vous voulez comme pécheur. L'apôtre Paul nous dit ce qu'il était avant, un outrageux, un persécuteur. Hein? un blasphémateur même. Mais il nous dit dans le chapitre 6, de la première épître aux Corinthiens, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. On a pu être cela, comprenez-vous ? On a pu être cela. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Puis c'est après cela qu'il est dit, toutes choses me sont permises. Je ne vous mets plus sous la loi. Mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Alors, je sais choisir maintenant, par la grâce de Dieu. Toutes choses sont permises, mais je ne me laisserai, moi, asservir par aucune. On ne se laisse plus asservir par une chose ou une autre. Mais ces choses peuvent nous servir, usant du monde comme n'en usant pas. Nous sommes bien dans le monde, on est obligé de traverser le monde, mais on n'a pas les principes du monde. Parce que le monde s'en va et sa convoitise. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, eh bien, ils demeurent éternellement. Quelle heure est-ce qu'il est ? On va arrêter, hein. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que réellement il y a la victoire. Et que un jour, verset 10 du chapitre 6, la bien-aimée paraîtra comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, oui, redoutable sous ses troupes, sous sa bannière. Elle sera appelée à régner avec Christ. Si vous souffrez avec Christ. Alors, mais qu'est-ce que c'est souffrir avec Christ ? C'est ça que nous devons comprendre. Dans la vie quotidienne, il y a des choses que... Oui, ça fait peut-être souffrir. La chair. Comprenez-vous ? Mais dans la mesure où elle n'est pas morte. Mais je veux la maintenir dans la mort. Mais moi, je ne peux pas par moi-même. Alors, je demande au Saint-Esprit, tiens-moi vraiment cloué avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Plutôt mourir que de pécher. Voilà où en arrive le croyant. Et il a la délivrance. Vous ne mourrez qu'au moment où le Seigneur le voudra. Et alors, un jour, ce travail que Dieu a fait dans une âme, ce travail qu'il a fait dans son Église, sera vu dans le monde entier. Alors maintenant, dans ce revient Sulamite, on voudrait voir, mais qu'est-ce que Dieu a fait en elle ? Reviens, pour que nous te voyions, libérée, que nous te voyons délivrée, c'est ça. Elle sera montrée glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Et toutes les nations de la terre verront ce que Dieu est capable de faire, et ils adoreront le Seigneur. Mais il y a une question, qu'est-ce que vous voulez voir dans la Sulamite ? Est-ce que c'est simplement de la curiosité ? Quelles sont vos motivations ? Pourquoi est-ce que vous voulez voir un vrai chrétien ? C'est pour voir le Seigneur lui-même. C'est pas nous qui allons nous montrer. C'est pour voir le Seigneur lui-même. Mais, je vous le dis encore une fois, il devrait y avoir des danses, parce qu'on sait qu'il y a la victoire. Dieu notre Père, il y a encore bien des choses que nous aurons l'occasion de voir. Nous voulons seulement te demander que ce que nous avons essayé d'exposer, tu le reprennes toi-même, avec ta clarté, et que ce que tu as voulu nous dire, malgré notre impuissance, notre faiblesse, tu l'accomplis, et que des âmes puissent trouver toute satisfaction en toi. Tu nous aimes. Et tu veux notre bonheur. Tu ne veux pas que notre vie soit en dents de scie, de ces moments sur les hauteurs, puis ensuite au fond de la vallée. Nous voulons reconnaître que si nous tombons encore, c'est parce que nous ne suivons pas tes préceptes. Nous pensons que nous avons encore la force, que nous pourrons tenir. Nous n'avons pas encore fait faillite. Seigneur Jésus permet qu'il y ait des faillites au camp Mahanaïm cette année. Des âmes qui reconnaissent qu'ils ne peuvent plus. Et quand nous serons vraiment zéro devant toi, tu viendras te placer devant toi qui es l'unité et cela fera une puissance. Nous te le demandons de tout notre cœur pour le bien de toutes ces âmes. Continue ton œuvre dans cette journée, dans ton âme. Amen.